Les gardiens de la BD, épisode 181. Au sommaire cette semaine, Maison Ronde, comédie française, un cow-boy dans le coton, QRN sur Boiselle-Dour, les crocs et l'âge d'or. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour une nouvelle édition des Gardiens de la BD en direct de chez nous pour encore quelques temps, puisqu'on enregistre une semaine avant diffusion. Avec moi ce soir, il y a Franck.
Bonsoir tout le monde.
Et il y a Thibaut.
Salut mes petits cow-boys.
Comment allez-vous?
Cow-boy aujourd'hui.
Ça va. Écoute, on est vraiment très très impatients de remettre nos postillons sur un micro.
Oui, et puis boire une bière et se voir en... surtout quand on enregistre.
Ouais, non, ça, moi, c'est pas prioritaire pour moi.
Moi, c'est pas le postillon qui m'intéresse. Moi, c'est quand même plus la bière.
Voilà, voir un invité surprise débarquer avec une bouteille de bière et des gobelets, c'est toujours agréable.
Ouais.
Mais moi, au-delà de ça, j'irais même vers l'interview d'auteur aussi. Hein.
Oui, parce que...
On en avait prévu, hein, monsieur Nico.
Et oui, sachant que comme l'émission va être diffusée le 23, de mémoire.
Oui. Elle est diffusée le 23, oui. Oui, nous sommes le 23.
Oui, non, on enregistre avant. Normalement, on aurait dû diffuser une émission spéciale avec Robin Reich qui devait venir à Arras le 21 novembre, et ça ne se fera pas, c'est partie remise.
Bien dommage.
Voilà. Sinon, on peut inviter les gars d'Open Bull, hein, s'il faut inviter des auteurs, absolument.
Des auteurs professionnels. C'est quand même plus sympa. Parce que moi, c'est pas que je les aime pas, Open Bull, mais ça m'intéresse moins de les rencontrer.
Bon, ok, c'est le micro, Franck, hein, tu mèneras l'interview.
On est en private joke, là.
Ouais. Allez. Franck, on te laisse la parole. Tu voulais nous parler de deux BD sorties chez Dargo toutes les deux. Une de Zanello qui s'appelle Maison Ronde sur France Inter.
Enfin, et sur pas la Maison de la Radio, ouais. Pardon. Tout à fait.
Et Comédie Française de Mathieu Sapin qui est plus sur la Comédie Française.
Comme son nom l'indique, oui, c'est ça. Faire un parallèle entre ces deux albums, ça me paraissait pas déconnant, parce qu'on est sur deux albums conséquents chez le même éditeur, qui traitent d'actualité en mode documentaire, un peu reportage, en mode journaliste finalement. Donc j'ai commencé par Maison Ronde. Charlie Nezanello a passé une année dans les murs de la Maison de la Radio à Paris, donc en totale immersion. Il est rentré en mars 2019 et il a fait finalement un album de 200 pages, un one shot pour expliquer ce qu'il y a découvert. Donc au-delà du bâtiment qui est au niveau architecture est super intéressant, il s'est intéressé au journalisme, à la culture, à la musique, à tout ce qui fait la marque de fabrique des 7 chaînes de radio qui composent, qui travaillent au sein de la Maison de la Radio. Alors ce qui est rigolo, c'est que il découvre en même temps que nous forcément cet univers, et tu vois que c'est un navire en perpétuelle évolution, parce que il y a des travaux dans tous les sens, parce que c'est immense. Moi, je voyais pas ça si grand. Il y a une carte au début de l'album, il y a un plan plutôt qu'une carte, un plan du bâtiment, un plan approximatif, et ça permet de se rendre compte de la taille que ça fait. Ils emploient quand même près de 4500 employés. Moi, j'étais bluffé finalement. Ils ont un auditorium de folie, mais ça je le savais déjà parce que j'écoute quand même assez fréquemment France Inter. J'écoute pas forcément les autres, hein, comme FIP, comme Move, comme France Info, France Culture, il doit m'en manquer encore. Et donc on
France
découvre
France Loisirs.
France Gall aussi, Panquier.
Ah,
on découvre le fonctionnement de cette radio, les rapports humains entre collègues, ou la manière dont ils se perçoivent au sein des différentes radios, et puis les rapports vis-à-vis des visiteurs. On croise à un moment Philippe Catherine, on croise évidemment pas mal d'hommes politiques, Et donc, on découvre aussi qu'il y a énormément de métiers différents au sein de la maison de la radio. Et donc, des ambiances très différentes. Sur cette année, il va avoir de la chance parce qu'il va se passer pas mal de choses. Il va se passer au début des élections, il va se passer un revirement total de la politique de la maison de la radio parce que malgré le fait qu'ils vont découvrir, et il sera là à ce moment-là, ils vont découvrir qu'ils sont les premiers, la première radio écoutée en France. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, ça a un nom. Ouais, médiamétrie, exactement. Je te remercie, Nico. Ils vont être premiers, mais dans la foulée, ils vont apprendre qu'il y a un plan drastique de réduction des finances, et donc ça va enchaîner sur une grève. Et puis il va y avoir aussi le Covid, hein, parce que ça a commencé en mars 2019. Il va finir avec le démarrage du confinement. Et ça donne un peu de relief à toute cette histoire. Alors au niveau dessin, on est sur quelque chose qui est du dessin de presse. C'est, on reconnaît quand tu vois passer un Hollande et tout ça, tu reconnais, mais c'est vraiment pas sur le dessin qu'il faut travailler. Et pour autant, il a été, je trouve, très fort dans la capacité à créer des ambiances différentes selon les séquences. Par exemple, à un moment, il va nous faire découvrir l'orgue de l'auditorium, qui est immense, et c'est une bulle dans cette histoire. C'est très particulier. C'est finalement assez spontané, simple. C'est très nature, hein, comme histoire. Il n'y a pas de chichi. Alors, à l'inverse, ça manque un peu quelquefois d'intérêt. C'est sympathique, mais c'est pas hilarant. C'est intéressant, mais c'est pas prenant. C'est assez curieux pour ça. Il y a quelques passages super intéressants, comme la découverte de l'orgue, comme la découverte des abris anti-atomiques. Moi, ça, je savais pas qu'il y avait ça sous la maison de la radio. Des rencontres improbables. Je parlais de Catherine tout à l'heure, mais pas que. C'est très rigolo sur cet aspect-là. C'est pas rigolo. On se marre pas. C'est très curieux. Et enfin, moi, c'est un album qui m'a. J'ai pris plaisir à le lire parce que c'est une radio, c'est des radios qui m'intéressent. Donc je ne sais pas à qui je pourrais le conseiller en dehors de ceux qui ont un intérêt à savoir où vont leurs fric, premièrement, ou deuxièmement pour ceux qui écoutent ces radios-là.
Pour les abonnés à Télérama, peut-être.
Mais pas tant que ça. Je pense que Télérama, on sera plutôt sur le deuxième album dont je vais parler.
Ok, j'ai une question toute bête. Tu parles de dessin de presse. C'est pas un peu antinomique avec la narration en bande dessinée ?
Alors, c'est ma manière à moi de décrire un trait hyper simple, stylisé. C'est pas du noir et blanc, mais ça pourrait presque l'être, parce que l'être, c'est des aplats de couleurs très simples. Alors, il en joue d'autant plus que il y a un code couleur pour les différentes radios de la maison de la radio. Mais enfin, jetez un coup d'œil sur le net, vous allez voir, c'est très simple, quoi. Expressif mais simple. Il y a une chose dont je vous ai pas parlé qui m'a un peu chagriné, qui est que il invente à un moment un personnage qui est un fantôme et qu'il conseille dans les endroits à aller, etc. Et tout est en mode très réaliste, et là tu te dis il utilise un subterfuge pour, je sais pas, pour ne pas dire qui l'a conseillé ou pour les conseils qu'il a eu par certains et par d'autres, pour prendre un peu de hauteur. C'est assez curieux et je suis pas sûr de trouver ça intéressant ou de trouver ça pertinent.
C'est pas pour faciliter la narration.
Bah, je pense que si, forcément. Mais j'aurais préféré qu'il invente quelqu'un qui le guide en permanence, qui n'existait pas, quoi. Mais peut-être qu'il a fait le choix de pas avoir un personnage de fiction au milieu de tous ces personnages de ces personnes qui existent réellement.
Ouais, c'est tellement documentaire qu'on aurait pu croire que la personne qui le guide, c'est réellement un employé de la maison de la radio.
Ouais, et là il fait le choix d'un fantôme. Je trouve pas ça. C'est pas ce qui m'intéressait le plus.
C'est marrant parce qu'il y a plusieurs possibilités dans ces cas-là, notamment d'invoquer un enfant, par exemple. T'as un enfant qui se met à croiser la route du reporter et puis qui lui dit tiens, je vais t'emmener là.
Ouais, mais faudrait-il que l'enfant connaisse les lieux. Un ancien, c'est plus intéressant parce que l'emmener dans l'abri anti-atomique, c'est d'accord. Forcément quelqu'un. Donc un ancien gardien, un gars de l'entretien, j'en sais rien, mais bah il a choisi le fantôme à mon avis pour simplifier la tâche.
Donc il n'y a pas d'intrigue, c'est vraiment une visite à la fois des lieux et une découverte des anecdotes qui sont liées.
Totalement.
Soit à des émissions phares, soit. Est-ce qu'il y a des focus sur certaines stars de la maison de la radio?
Oui.
On pense à Nagui qui
a alors, ils un en truc parlent.
Sur le midi. Il y a aussi des grosses émissions avec pas mal d'humoristes plus ou
alors,
moins
oui.
connus.
Tu en croises, il parle à un moment de Nagui, mais on va pas le voir. À un moment, il a une petite mise en abîme où il est invité dans une émission de Decaune.
Ouais.
Mais il est tellement déstabilisé qu'il sort pas un mot. Alors qu'il y a, je sais plus à quelle occasion, c'est une occasion particulière, une émission où il y a pas mal de monde autour de la table, et il est totalement déstabilisé. Mais tu vas, pour ceux qui écoutent France Inter, il va aller discuter avec l'Odéon, Frédéric L'Odéon, ouais. celui qui faisait l'émission de musique classique. Donc en fait, c'est plutôt au gré de ses envies ou des conseils qu'on lui donne, il va aller voir, il va aller être en coulisses de pas mal d'émissions et donc d'émissions qu'on connaît, mais il va croiser aussi, je le disais tout à l'heure, des musiciens dans l'auditorium, un technicien pour aller des techniciens, mais vraiment derrière les platines, un gars de la maintenance pour l'orgue, il va discuter avec une des directrices, enfin une directrice d'une des sept chaînes. Donc c'est selon son envie ou selon ce qu'on conseille, il passe d'une radio à l'autre, d'un lieu à un autre, et puis on avance comme ça sans réellement de but finalement.
Ok.
J'ai deux questions, Franck. La première, est-ce qu'il croise le journaliste de France Inter, auteur de BD aussi, celui qui avait fait La Patrie des Frères Werner, Philippe Collin?
Non. Non, on n'en parle pas, c'est vrai. Mais il bosse encore sur France Inter, Colin?
Je pense, ouais. Et alors, la deuxième question, est-ce que la BD, donc toute Maison Ronde, est nommée au prix FNAC France Inter de la bande dessinée?
Je n'en ai aucune idée, j'ai pas regardé ça, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Et donc, oui. Je vais basculer sur
parce qu'on va faire la pause musicale, c'est pour ça que je te faisais...
c'est pour ça que tu me faisais des grands signes.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on va faire la première pause musicale à la demande de Franck. On va écouter Banana Gun Out of Reach. Nanana.
Yeah.
deuxième partie des Gardiens de la BD, et c'est toujours Franck qui a la parole. Ce coup-ci, tu vas nous parler du dernier Mathieu Sapin sorti chez Dargo, qui s'appelle Comédie Française.
Tout à fait, Comédie Française, avec un petit sous-titre qui s'appelle Voyage dans l'antichambre du pouvoir. Là aussi, comme pour Charlie Zanello, on est sur un album one-shot chez Dargo, 168 pages cette fois-ci, un petit peu moins que Zanello. Alors, la différence, c'est que Mathieu Sapin est quand même beaucoup, beaucoup plus connu que Charlie Zanello, et que là, il se met en scène, mais encore... de manière encore différente de l'autre album, parce que il se met en abîme en permanence. Il faut savoir que Mathieu Sapin, avant ça, il avait passé 9 mois à suivre la campagne présidentielle en 2012. Il avait passé, je crois, 2 ans dans les coulisses de l'Élysée. Il a passé un temps fou sur le scooter de Gérard Depardieu et à le suivre partout. Et donc, il avait dit, c'est bon, moi j'arrête les BD comme ça, un peu documentaires.
Il n'avait pas fait un truc avec Sfar sur le tournage de son Gainsbourg ?
J'ai un doute, je ne sais plus. Je sais qu'il, lui, a fait un film, par contre. Il a fait un film, le film avec Audrey Lamy qui s'appelle Le Poulain. Il en parle un moment dans l'album. Il explique. En fait, cet album, il commence, et même une bonne partie de cet album, ça sert ça le montre en train de réfléchir, est-ce que je le fais ou pas ? Donc c'est ça qui est très, très particulier. Il se met en amont de son album. À cette époque-là, il hésitait parce qu'il était très intéressé par le personnage, par la personne de Jean Racine, de l'époque de Louis XIV. On voit bien qu'il avait envie d'en faire un album, mais en même temps, il est partagé. Il a fort envie d'aller suivre Macron. Et finalement, tout l'album repose sur cette alternance, sur ce parallèle entre lui, Mathieu Sapin, et Racine, Jean Racine, entre Macron et Louis XIV, et donc dans ce rapport entre l'art et le pouvoir. Et c'est très curieux parce que il alterne sur des... Enfin, il fait des longues séquences dans l'un et dans l'autre, des deux univers finalement. Et ça donne parfois l'impression qu'il n'a pas su choisir son sujet, y a des parallèles qui sont un peu malheureux. Enfin, je sais pas, moi, il y a une grande autodérision comme il le fait comme d'habitude. On se demande si ça traite du pouvoir ou de la fascination du pouvoir, parce que lui, on sent bien qu'il est attiré par Macron. Il le dit d'ailleurs lui-même. C'est curieux, quand on croise Macron, on sent une bienveillance, on sent un intérêt chez Macron. C'est surprenant de le dire, hein, mais il a apparemment l'art de te mettre à l'aise. Et donc, comme Jean Racine, qui voulait absolument se rapprocher des grands, se rapprocher de Louis XIV, ben, on a l'impression que lui, il est un peu dans les mêmes conditions, mais il s'en rend compte. Donc, il essaye de prendre la distance, mais en même temps, il y retourne en permanence. C'est très bizarre comme album. Moi, je l'ai trouvé aussi un peu inconstant dans le rythme, alors que les passages intéressants sont plus intéressants que ce que j'ai pu lire dans Maison Ronde. Ce qui fait qu'il y a une inégalité qui m'a déplu. Il y a quand même des très bons passages, il y a des bonnes choses, et c'est rigolo sa manière de jouer avec le langage, c'est-à-dire que dans l'époque de Jean Racine, il va utiliser des expressions limite wesh-wesh, mais des expressions récentes pour mettre du relief, pour mettre de l'intérêt. Mais par contre, ce qui m'énerve chez lui, c'est sa manière de mettre des petites flèches et des effets post-it là, pour dire, tiens, derrière, c'est le Louvre, tiens, derrière, c'est tel personnage ou tel conseiller du ministre ou telle courtisane à l'époque de Louis XIV. Donc, je trouve qu'il en abuse et c'est pas utile à l'histoire. Moi, ça m'en sort plutôt. Apparemment, lui, il a l'air de dire que c'est pour ceux qui ont envie de le lire, ça donne un peu de concret, ça donne un côté journalistique. Je suis pas sûr que ça soit utile non plus. Au niveau du dessin, bah, c'est du Mathieu Sapin que je vais qualifier là aussi quelque part un peu dessin de presse. Hein. Sur ses décors, il les lèche quand même. Il y a des très belles choses. Mais par contre, sur les personnages, quelquefois, tu te demandes si... Enfin, là, il a peut-être intérêt à mettre des flèches pour dire qui c'est, quoi. ça gâche un peu. Donc, un album inégal, mais sympathique. En fait, je suis très partagé à la lecture de cet album-là.
Ok, Franck, donc tu nous parlais...
J'ai plus l'impression, comme tu disais tout à l'heure, que c'est plus
Ouais, bah,
plus bobo, plus Télérama.
Oui, bah voilà. Donc c'était. moi, j'ai pas de questions là-dessus parce que de toute façon, c'est.
Ça t'intéresse pas.
À part pourquoi, tu vois.
Mais on a parce qu'on lui a demandé et qu'il hésitait et que ouais. Bah il avait envie de faire Racine, bah il a fait les deux.
Ok, donc c'était Comédie française de Mathieu Sapin chez Dargaud.
Ouais.
Alors moi, je vais vous faire faire un bond dans le temps d'une soixantaine d'années en arrière, puisque je vais vous parler de QRN sur Bretzelburg, qui est sorti, qui est ressorti en coffret Dupuis exclusivité Canal BD, donc un tirage à 2000 et quelques exemplaires. Dans le coffret, vous avez la version complète de QRN et la reprise des planches originales de Franquin, puisque c'est Franquin qui l'a fait. C'est peut-être pour moi le meilleur Spirou qu'il ait fait. Il y a eu un processus compliqué. Oui. Oui, bah c'est le seul où il y a un vrai scénar. Qui n'est pas qu'un prétexte et compagnie.
Lequel de tous les Spirou de cette période-là?
De tous les Franquins. Franquin, d'accord. Souvent, c'était un prétexte qui est tiré. Là, c'est co-scénarisé par Michel Greg, qui avait déjà scénarisé auparavant des Spirou, mais il venait de créer Achille Talon, donc normalement, il ne bossait plus. Et alors, pourquoi ça ressort dans un coffret avec les planches et compagnie, et je parlais de la version complète, c'est que l'album qui est trouvable dans la collection normale de Spirou et Fantasio, ce n'est pas la version complète, puisque Franquin a mis plus de 2 ans à le faire, à une époque où Spirou devait être toutes les semaines dans le journal de Spirou. Donc ça commençait à être publié en mai 1961 jusque juillet 61, un ralentissement progressif, et en janvier 62, un édito signé Yvan Delporte, rédacteur en chef historique de Spirou, explique que Spirou ne sera pas au rendez-vous, que Franquin est très souvent, et qu'il reviendra quand il ira mieux.
Très souffrant, oui.
Oui, très souffrant. En fin de compte, c'est connu comme histoire, c'est qu'il en avait marre de Spirou déjà à l'époque. Il était en conflit avec Charles Dupuis, l'éditeur, qui lui demandait de faire du Marsupilami et pas du Zorglub. Ce qui fait que là, au début, quand l'album commence, il y a son scénario et il apprend en cours de route qu'il est refusé. Donc il y a des pages qui se traînent en longueur où t'as le Marsupilami qui s'amuse. Il y a des gags à base d'un transistor planqué dans le nez de Marsupilami et comment l'en faire sortir, et ça traîne pendant 3-4 planches parce que Greg est en train d'essayer de recoller les morceaux comme il peut et de transformer une aventure de Zorglub en sortant complètement Zorglub de l'histoire. Au niveau de l'histoire en elle-même, c'est l'équivalent du sceptre d'Autocar de chez Tintin.
Dergé.
Ouais. Oui, enfin, mais c'est une aventure de Tintin. Puisque Bretzelburg, c'est une petite de principauté, royauté, dans une Europe centrale de l'Est fantasmée, en conflit avec son voisin, le pays voisin. Le grand méchant étant naturellement le conseiller du roi, comme chez Hergé. Sauf que là, c'est beaucoup plus rigolo et moins sérieux que ce qu'a fait Hergé. Donc, moi, je trouve que c'est il y a un problème au niveau de cette édition-là, c'est que avec tout le problème qu'il y a eu au niveau de l'éditorial à gérer les retards de Franquin, ses problèmes de santé et tout ça, il y a 2 pages de texte en plein milieu au moment de la coupure quand il s'arrête complètement. Ils expliquent pas, il n'y a pas une recontextualisation en fin de compte de l'album et pourquoi c'est ressorti comme ça. Quelqu'un qui connaît pas l'histoire se dirait pourquoi sortir ce Spirou-là et pas
un. Et ce texte, c'est quoi alors?
Alors ça reprend les facsimilés des plans qui étaient dans Spirou, donc l'édito de Delporte, le résumé quand il reprend, et ils expliquent un peu, oui, pendant 2 ans, il n'y a rien eu. Parce qu'il était malade, il fallait qu'il se soigne. Mais sans revenir sur...
Excuse-moi.
Ouais.
Il y a un truc que je piche pas, parce qu'en fait, moi j'ai lu énormément de Spirou dans ma jeunesse, mais je les ai pas tous lus. Et celui-là, je suis passé totalement au travers, je l'ai jamais lu, je pense. Et donc là, j'arrive pas à comprendre si c'est la réédition dont tu nous parles, ou de l'album original, le fait qu'il y ait ces informations-là en plein milieu.
Non, c'est la réédition, parce que comme l'album était trop long, comme Franquin avait traîné... Enfin, il y a eu des problèmes. Il y a Franquin qui traînait en longueur en attendant un scénario. Il y avait trop de pages. Il y a une scène de torture qui a dû être retirée parce que ça posait problème, et des histoires de droits sur les chansons qui passaient dans les radios.
Donc ils ont fait des coupes pour que ça tienne en un album à l'époque.
Voilà, c'est ça. Donc ça a déjà été réédité dans les années 80. Les éditions NIF l'avaient sorti en version commentée en demi-format il y a 3-4 ans peut-être. Et là, donc c'est la version normale, facsimilé Doron. Il y a tout dedans, il y a la version complète, mais sans aucune mise en contexte historique, et je trouve ça vraiment, vraiment bête, quoi. Enfin, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de sa
aventure,
ou toute l'aventure, ne comprend pas pourquoi c'est cet album-là qui sort comme ça.
D'accord. Moi, c'est la question que j'ai pu me poser en le voyant en librairie. Je suis pas un lecteur ni passé ni futur de Spirou, je me suis dit, tiens, il y a pas mal de choses qui sortent, Émile Bravo, etc. Est-ce qu'il surfe pas sur une certaine mode éditoriale autour de Spirou, ou est-ce qu'il y a un intérêt quelconque, et des ouvrages augmentés, on en a vu beaucoup. Surtout sur les intégrales qui ont pu sortir de Gilles Jourdan, de Théodore Poussin, avec pas mal d'éléments contextualisants. Et effectivement, moi je trouve que quand on lit ce genre d'album longtemps après leur création, c'est quand même vachement important qu'on nous remette dans le contexte de l'époque, ne serait-ce que pour savourer aussi les formes de gags qui étaient développées. Aujourd'hui, on peut avoir l'impression de gags très légers, voire un peu enfantins. À l'époque, il y a quand même pas mal de gags qui étaient réalisés pour la première fois. Les gens qui ont fait ça restent des novateurs dans le milieu de la BD. Et c'est vrai que c'est toujours un peu handicapant de ne pas avoir ce genre d'élément historique.
Ouais, bah, parce que c'est vraiment une rupture. Franquin, à l'époque, a déjà commencé Gaston. Il veut plus faire Spirou parce qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut avec. Et c'est l'album de la rupture. Quelque part après, il rendra son tablier dès qu'il pourra. Enfin, néanmoins, je vous le conseille. Moi, je suis un peu déçu parce que, en plus, comme tu disais, Thibaut, Dupuis a fait des super intégrales avec toujours des dossiers introductifs super intéressants. Ils auraient au moins pu reprendre ce qui avait été fait dans les intégrales Spirou et les mettre en introduction. C'est un travail un peu fainéant pour faire une vente facile pour Noël, je pense. Maintenant, l'album en lui-même est pour moi, c'est le meilleur Spirou, donc je vous conseille vivement.
S'il y en a un à lire, c'est celui-ci.
Alors, tu nous conseilles l'album, mais pas ce tirage-là.
Tu vois, c'est 40 euros, donc si t'en as rien à faire de Franquin, d'avoir les facsimilités de ses planches et compagnie, c'est pas... Autant que tu prennes la version normale, hein, je sais pas, elle doit être à 10 ou 11 euros, je pense. Après, le fan de Franquin le prendra parce que comme t'as deux bouquins, le deuxième c'est les facsimilés des planches, tu vois les bouts de scotch, les coups d'encre rajoutés et compagnie pour corriger les dessins.
Ça marche.
Voilà. Okay.
C'était donc
QRN sur Bretzelbourg de Franquin, sorti chez Dupuis.
Mais QRN, c'est seulement... ça veut dire quoi?
C'est un truc de CB.
D'accord.
Je fais de la version courte. Hein. voilà. Et donc, par contre, seulement trouvable chez les libraires Canal BD, parce que c'est un exclu qui avait été négocié à l'époque.
On va faire. Pas à l'époque de Franquin. Hein.
Non, à l'époque où il y avait encore des réunions entre éditeurs et libraires.
Ah, oh, dis donc. Oui, bon, c'était quasi à l'époque de Franquin.
Bah voilà. On va faire la deuxième pause musicale. Glenn Miller, Lady Be Good. Thank you. troisième partie des Gardiens de la BD. Thibaut a enfin eu le temps de faire toutes ses préparations pour nous parler du nouveau Lucky Luke, un cowboy dans le coton de HD et Jules. C'est sorti chez Lucky Comics.
Et donc, alors, il y a un lien avec la musique en plus.
Il y a un lien avec la musique parce que la dame qui doit être bonne, hein, selon Glenn Miller, c'est une vieille dame dans cet album qui désigne Lucky Luke comme son héritier. En fait, c'est une dame qui collectionnait les récits des aventures de Lucky Luke. Et puis au moment de son décès, elle lui lègue toute son exploitation de coton. Ce qui fait de Lucky Luke l'un des hommes les plus riches de Louisiane.
Et un esclavagiste.
lui, il se dit, mais merde, qu'est-ce que je vais foutre de ça? J'ai vraiment pas envie d'hériter de ce genre de choses. Donc il va se rendre en Louisiane parce qu'il en veut pas, et son objectif, c'est de refiler le magot aux employés de l'exploitation. Alors évidemment, c'est pas aussi cynique que ça, hein, c'est beaucoup plus chevaleresque, cowboyresque. Alors sur place, Lucky Luke, il se rend compte que les riches blancs proprios du coin sont tendance plutôt triple K qu'autre chose. Donc Ku Klux Klan à mort, et en plus de son envie de donner les clés de l'exploitation aux Afro-Américains qui y travaillent, et ben Lucky Luke, il va se faire un devoir de donner une leçon aux suprémacistes blancs.
D'accord.
Alors voilà un peu le contexte. Il m'a fallu du temps, parce qu'il m'a fallu du temps pour digérer ma déception.
Ah merde.
Donc ah ouais. HD, rapidement, HD, c'est un auteur, un dessinateur de grand talent, hein, ça c'est clair, qui a repris le dessin de Lucky Luke après le décès de Maurice en 2001, et Jules, c'est l'auteur de Silex and the City, notamment, une sorte de satire qui transpose l'actualité politique de notre société à la préhistoire. Alors Lucky Luke, c'est, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un univers caricatural, hein, qui a été créé par Maurice en 47, il y a plus de 70 ans, c'était 12 ans avant Astérix. Et dans cet album, Lucky Luke va rencontrer Bass Reeves, qui est le premier Marshall noir de l'histoire. Alors ça, c'est quelque chose que HD et Jules ont récupéré de Maurice. C'est que Maurice a toujours intégré des personnages réels du Far West. Il y a Calamity Jane, Billy the Kid, entre autres. Et puis il y a aussi des hors-la-loi un peu plus confidentiels, comme Bellstar. Il y a aussi des gens comme le colonel Drake, par exemple, qui est réputé pour être le premier à avoir foré un vrai puits de pétrole. Voilà, hein, l'avenir nous dit que c'était pas forcément la meilleure des idées. Donc HD et Jules, moi je trouve qu'ils réalisent, enfin surtout Jules, hein, une BD moyenne. Maurice et Goscinny, puisque je l'ai pas dit, mais Goscinny, c'est lui qui signait le scénario pendant un moment des BD de Maurice. Ils pondaient un scénario et ils y greffaient les anecdotes plutôt historiques. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours eu l'impression de lire un Lucky Luke. Là, j'ai l'impression que c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que on trouve ces archives de ce premier Marshall noir, Bass Reeves. On va avoir envie de lui faire rencontrer Lucky Luke, et puis il va falloir greffer des choses autour, et la liste des faits, c'est qu'il y a on va foutre l'esclavagisme dans les champs de coton, on va mettre les riches proprios blancs et le Ku Klux Klan au milieu, on saupoudre ça d'un petit ouragan, et parce qu'on est en Louisiane évidemment, et donc hop, on sort un album de Lucky Luke. J'ai trouvé ça un peu facile dès l'entrée de l'album. Alors on pose Lucky Luke qui est en vacances. Vous avez bien entendu, Lucky Luke est en vacances dans une bourgade du Kansas. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, le type doit aller en Louisiane sur son bidet, et il va devoir faire pas moins de 1500 km pour rejoindre le Kansas à la Louisiane. Donc il est dans sa petite bourgade.
Il prend les autoroutes, j'espère.
Je sais pas. Alors tout ça, c'est les 1500 km, il les avale en deux pages.
Donc, bah c'est déjà mieux que le Astérix et les Pictes, où il leur fallait la moitié de l'album pour partir en Écosse.
Ouais, mais ça a quand même une tu vois, quelque part, un côté réaliste. Et ça peut reprendre l'adage que le voyage est meilleur que l'arrivée. Tu vois, c'est pas l'objectif qui compte, c'est,
ouais,
c'est
mais
le
attends,
chemin
attends,
pour y
attends, mais...
parvenir.
Et il se passe des choses, mon sens, ces deux pages, parce qu'en BD, tu fais ce que tu veux.
Ouais,
L'ellipse, c'est d'une case à l'autre, les 1500 km, ils sont faits.
il se passe dans ces deux pages, il se passe des choses. On voit le cow-boy partir, Lucky Luke partir, avec le panneau, hein, qui nous précise quand même qu'il y a 900 miles. Et en fait, on a un léger focus sur son voyage. Et donc, il va rencontrer une. On va faire un petit passage sur l'abolition de l'esclavage à la fin de la guerre. Et très vite, on va repartir sur le voyage de Lucky Luke qui croise deux marmots. Il va recroiser un peu plus tard dans l'album. Et il y a aussi un petit focus sur l'évasion, l'énième évasion des Dalton d'un pénitencier de Muscle
Parce qu'ils sont
Bird.
encore là.
Ils sont encore là. Alors, c'est. Voilà, ça fait partie des raccourcis, moi, qui m'ont gêné. Dès l'entrée, Lucky Luke est en vacances, il croise ce marshal qui escorte qui? Les Dalton. Et qui s'arrête exactement dans le même saloon que Lucky Luke. Et en fait, les Dalton vont avoir vent de l'héritage parce que, au même moment que tout ça, il y a le notaire de la ville, où Lucky Luke est en vacances, qui lui annonce qu'il hérite de la vieille bique. La vieille fanatique qui n'a jamais vu Lucky Luke, et donc Lucky Luke qu'il n'a jamais rencontré non plus, et qui lui lègue tout
D'accord.
sans l'avoir jamais rencontré. Donc là, à ce moment-là, les Dalton entendent cette histoire et vont se mettre à poursuivre Lucky Luke en se disant, tiens, on va le tuer pour essayer de récupérer tout le magot et ce qui fera de nous les hommes parmi les plus riches de Louisiane. Donc la suite, c'est du même acabit, hein. C'est vraiment, j'ai vraiment ressenti ça comme un condensé de déjà lu et relu sur tout ce qui peut concerner les champs de coton, cette période, le racisme des Blancs qui se rassemblent sous la bannière du Ku Klux Klan. J'ai pas trouvé vraiment de finesse ou d'apport historique. Il y a quand même un peu plus de mystère dans les BD de Maurice et Goscinny. C'est-à-dire que ce vengeur à la paille, enfin qui avait une clope d'ailleurs dans le bec avant, c'était quand même un peu plus mystérieux. Et c'est très dommage parce que moi je trouve qu'HD, il retranscrit parfaitement l'univers de Maurice. Il fait d'ailleurs un hommage à Maurice à la page 32, là, dans l'album. Sa maison est complètement décorée de trucs autour de Lucky Luke. Et HD vient parsemer la déco de cette maison avec les dessins originels, l'évolution du dessin d'HD. C'est très très bien. Voilà, en conclusion, Jules, il pourrait vraiment beaucoup mieux apporter de la modernité à cette série du patrimoine, hein, de la BD, clairement. Surtout sur une thématique qui résonne beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de choses qui résonnent à notre actualité. Mais ça manque vraiment, à mon sens, cruellement de subtilité. Voilà ce que je pouvais dire de Lucky Luke, un cow-boy dans le coton, de HD et Jules.
Franck, une question? On a perdu Franck.
Allez, Franck, as-tu une question?
Si moi j'en ai une, par rapport au précédent.
Alors, c'était celui qui traversait Paris. Je n'irai pas plus loin. Un cow-boy à Paris, je crois. Je l'ai pas lu. Voilà. Tout ce que je peux te dire, c'est que Jules a fait traverser l'Atlantique à Lucky Luke.
C'est l'histoire avec la Tour Eiffel, avec Eiffel et avec le pas la Tour Eiffel, avec la Statue de la Liberté, il me semble.
Je l'ai
Ouais.
pas lu. Et
J'avais trouvé
franchement,
ça très moyen.
j'ai pas envie de le lire.
Non, mais il y a un moment, faut savoir arrêter les séries aussi.
Mais moi, vraiment, alors, peut-être, hein, mais c'est vraiment dommage parce que HD, on lit un, hein, Lucky Luke, ça, il n'y a aucun problème. Le dessin, c'est du Lucky Luke, c'est du Maurice. Alors, encore une fois, je pense que c'est difficile d'adapter. Il y a Bouzard et puis Mathieu Bonhomme qui avaient fait de brillants albums vraiment humoristiques pour Bouzard et puis vraiment hommage pour Mathieu Bonhomme sur Lucky Luke. Là, on lit vraiment un Lucky Luke, on est dans cet univers originel, il n'y a aucun problème, mais alors Jules, je trouve que il gâche l'opportunité et c'est vraiment dommage. C'est beaucoup, beaucoup de déception.
Bon, c'est pas grave, la semaine prochaine, on parlera de l'excellent Blake et Mortimer qui sort.
Ah bah écoute, tu fais ce que tu veux.
Non, je déconne.
Moi, je dirais pas. Voilà, beaucoup de déception. Je vais pas dire, voilà, c'est plus la déception qui prime plutôt qu'un mauvais album qui me tombe des mains. Bon, voilà.
Ok, Thibaut, donc tu nous parlais du dernier Lucky Luke que tu ne recommandes pas, sauf pour les gens qui aiment bien les dessins de copistes.
Ouais, c'est vache. Ouais.
Bah, c'est ça. Franck, m'entends-tu cette fois-ci ?
Oui, oui, je t'entends là.
Donc c'est à toi, tu vas nous parler des Croc tome 3 de Léa Mazet qui est sorti aux éditions La Gouttière.
Exactement, c'est le troisième et dernier tome d'une série qui... C'est des beaux albums, hein. Déjà c'est des albums de 70 pages, donc il y a de quoi manger sur chacun des tomes. Je vais vous faire un petit rappel de ce qu'est l'histoire avant de parler de ce tome 3. Ça s'appelle Les Crocs parce qu'en fait on suit deux enfants, des jumeaux, qui s'appellent Céline et Colin, qui ont, difficile à dire, moi j'aurais dit 11-12 ans, mais en tout cas ils sont au collège. Et qu'on surnomme les Crocs, et plus particulièrement Croque-Mort et Croque-Mitaine, parce que leurs parents tiennent une entreprise de pompes funèbres. Et ces parents sont fort occupés, s'occupent assez peu de leurs enfants, et donc ils ne détectent pas qu'ils sont harcelés au quotidien, qu'ils sont embêtés par les autres élèves. Et ils sont isolés, ils sont poussés finalement à la faute, ils commettent des bêtises, ils font des erreurs. Et dans ce tome 1, ils vont finir par être renvoyés deux jours, de renvoyer de leur établissement. Et pendant ces deux jours, les parents qui leur demandent de filer droit et de ne pas les embêter, ils s'ennuient et ils vont finir par traîner avec Poussin, qui est le surnom du graveur funéraire. Et qui, un peu comme Céline, aime bien dessiner, donc il aime bien partager des choses avec eux, il rentre dans le jeu de leurs histoires, parce qu'eux, ils s'inventent plein d'histoires, et il va les mener sur une petite enquête. Il va leur faire découvrir que sur certaines tombes, il y a un V qui est gravé, et ça va devenir un jeu de piste pour eux, et là, leur imagination s'enflamme. Donc ils imaginent plein de choses, ils font des recherches de leur côté, et à la fin de ce tome 1, l'enquête les mène, donc ils habitent à côté du cimetière, hein, ils l'emmènent au sein du cimetière, dans un caveau, et ils vont découvrir un trésor et du sang un peu partout. Et le problème, c'est qu'ils vont pas être crus, parce que quand ils vont aller prévenir leurs parents et que les parents vont revenir, le cadre aura changé. Donc ça, c'est sur le tome 1. Dans le tome 2, qui s'appelle les oiseaux de malheur, le tome 1, c'est tuer le temps, un jeu de mots hein, déjà. Donc les oiseaux de malheur, ils vont s'éloigner progressivement finalement de leurs parents en continuant à enquêter, mais il y a un problème, c'est que Poussin a disparu et qu'ils doutent d'un personnage, ils se disent lui il doit être méchant, et en même temps ils se rendent bien compte qu'ils sont en danger, il y a une course-poursuite, il y a un vrai risque, il y a un méchant. On ne sait pas qui, mais il y a un vrai méchant. Donc ça prend une tournure plus grave encore. Dans ce tome 3, je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup parce que sinon on spoil, on a vraiment le dénouement de la série. On a la fin de l'enquête. Pardon ?
Il se conclut donc en 3 tomes, donc une série plutôt courte.
Oui, 3 tomes, c'est terminé. Bah, plutôt court, mais comme je disais, courte, mais comme je disais, 70 pages par tome, ça fait l'équivalent de finalement 5 ou 6 albums en format classique, en format Lucky Luke par exemple.
Ouais, ouais.
Et est-ce que Léa Mazet réussit à finir bien sa série ?
Alors moi je trouve que oui. Je trouve que oui. Alors sincèrement, au milieu, peut-être même plutôt que ça, de l'album 3, j'ai deviné qui était le coupable. Ou les coupables, enfin en tout cas j'ai deviné. Cela dit, je pense pas être le public cible. Sincèrement, c'est le genre d'album que j'aurais aimé lire gamin, et j'aurais aimé lire à me faire peur. On est dans une histoire qui est, il y a un beau mystère, il y a pas mal de suspense. c'est bien rythmé, la narration elle est limpide. Franchement, c'est une très bonne BD pour les gamins. Alors, vous dire à quel âge je le conseille, peut-être des collégiens, voire un poil plus tôt, parce qu'on aime bien à cet âge-là se faire peur avec des choses d'adultes ou de plus grands. Mais franchement, ça vaut le coup, je trouve. Et son dessin est toujours aussi fin, beaucoup de crayons de couleur. Elle retouche avec du numérique derrière, mais pour autant, elle arrive à créer des ambiances oppressantes, les scènes de cimetière, parce qu'en fait, on est qu'entre cimetière et chambre funéraire. Ça reste pour enfants, mais en même temps, je sais plus, j'avais lu une critique qui disait que c'était un mélange de Sherlock Holmes et de Tom Tom et Nana.
Et sur cette histoire d'enfant enquêteur, l'enquête elle est assez condensée dans le temps. Ils grandissent entre le tome 1 et le tome 3 ou c'est vraiment très très condensé dans
le
temps?
Non, c'est très condensé. C'est très condensé. Ça se passe, je te disais, le tome 1, ils sont renvoyés deux jours. Il va se repasser des trucs avec le bahut, avec le collège. Donc, on est sur une histoire qui dure sur une semaine grand maximum, je dirais.
Ok.
Alors peut-être un peu plus quand même.
Ok, merci Franck. Donc tu nous parlais des Crocs, tome 3 de Léa Mazet, sorti aux éditions La Gouttière.
Oui, que je recommande fortement.
Voilà.
Et donc je mettrai à jour sur la page Facebook des Gardiens, ce qui me semble qu'on n'a pas mis cette couve à mon corps défendant.
Bah, tu perds un coup là quand on se reverra. Troisième pause musicale, All Is Love, Karen O and the Kids. Dernière partie des gardiens de la BD, Thibaut et Franck vont nous parler du deuxième tome de L'Âge d'Or, de Pedrosa et Morey, qui est sorti chez Dupuis.
Exactement.
C'est ça, alors L'Âge d'Or, je vais spoiler d'entrée de jeu, mais c'est le titre d'un livre qui raconte comment le monde vivait sans servitude. Et c'est important parce que ce bouquin, c'est la pierre angulaire d'une révolte qui est menée par Tilda, une jeune princesse. Et elle mène cette révolte contre son jeune frère, qui a hérité habilement du trône du royaume. Alors, sans le savoir, Tilda, elle va d'abord se mettre en quête d'un trésor secret, et puis elle va se sentir investir d'une mission, qui est de reconquérir le royaume de son père, donc qui est tombé aux mains de son jeune frère, pour se consacrer quelque part au bien-être des sujets, parce qu'elle sait que voilà, dans le royaume, le peuple va mal, et elle va s'investir de cette mission-là.
Sauf qu'il y a une belle évolution quand même dans cette recherche de vouloir faire le bien. Elle hésite entre deux parties, quoi, parce qu'elle sait pas. Enfin, là, comme tu l'as dit, t'as spoilé directement sur l'ouvrage L'âge d'or, mais elle sait pas ce qu'elle a en main réellement, et elle hésite entre juste essayer de redevenir reine, enfin de piquer le trône à son frère, et de s'ouvrir à cette philosophie.
Ouais, c'est pour ça que là, je résumais aussi le tome 1. L'âge d'or, c'est une histoire complète en deux volumes. Le tome 1, vraiment, ça pose énormément de bases, à la fois sur sa quête personnelle à elle, quelle est sa place. Elle se pose énormément de questions autour de ça. Elle sentait vraiment la digne héritière de son père, mais ça s'est pas passé comme ça. Et donc, elle va se mettre d'abord dans cette recherche de ce trésor, dont elle sait pas au début que c'est un livre. Mais elle va chercher ça, et elle va être accompagnée dans sa quête par deux personnages vraiment principaux, une sorte de courageux et très sage chevalier qui s'appelle Tancred, et puis une sorte de palefrenier qui s'appelle Bertil. Dans le tome 1, il y a aussi énormément d'autres personnages secondaires, comme Vaudémon, qui est le genre de cardinal là, du jeune frère, qui a pris le trône. Il y a Poudvigne, Petit Paul et Languy, qui sont trois
métayers,
badauds, là, qui sont aussi importants pour la suite. Et puis il y a Frida, qui est une sorte de bonne sœur, recluse dans un monastère de bonne sœur, qui étudie énormément d'écrits anciens. Et elle, ça va être un personnage très très fort du deuxième tome. Donc le premier volume, il est centré sur cette quête. Et le volume 2, il est centré sur la bataille qui va permettre à Tilda de reprendre le royaume des mains de son jeune frère.
Ouais, c'est un bon, très bon résumé, même peut-être presque trop, dis donc.
Quand tu parles de Petit Paul comme personnage, c'est un hommage à la BD de Bastien Vivès ou quoi?
Non, rien à voir. Rien à voir.
Pourtant, lui aussi, personnage haut en couleur, avec une...
Mais pas pour les mêmes intérêts.
Non. Pour je crois que ça s'appelle une exophorie, il a les yeux qui partent à l'opposé.
Strabisme divergent.
Ouais, je crois que c'est. Je me demande si ça s'appelle une exophorie, mais bref, je demanderai à mon épouse. qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Franck, de l'ensemble de ces deux tomes?
Alors, pour en parler, je vais peut-être parler des deux auteurs, parce qu'en fait, j'ai un souci, c'est que j'aime le travail de Pedroza, donc je pars déjà conquis par son boulot. Pedroza, il a commencé chez Delcourt avec David Chauvel, il avait fait une série qui s'appelle Ring Circus, esthétiquement, il a beaucoup évolué depuis, mais j'étais déjà fan à l'époque. Il avait travaillé sur une série jeunesse avec Chauvel, qui s'appelait La Brigade Fantôme, et après, il est parti sur des ouvrages beaucoup plus gros, beaucoup moins classiques en termes de format, et plus personnel. Il avait fait des choses comme Les Cœurs Solitaires, c'était un petit album, mais il avait fait ensuite des ouvrages et des mois comme Portugal ou Les Équinoxes.
Ouais. Et Trois Ombres aussi, qui était sorti chez Shampoing.
Trois Ombres, exact.
Bon. Et des trucs chez Fluide Glacial, non?
Oui, il avait fait, alors je les ai aussi ceux-là, Autobio, des gags en une planche sur comment vivre sa conviction écologique au quotidien, je vais le dire comme ça, mais c'était Roxane, à l'époque où le développement durable était un peu la mode.
Et Roxane Morel, la sénatrice?
La scénariste, pas la sénatrice.
Non, je pensais à Gérard Larcher, je ne sais pas pourquoi.
Bah, a priori, c'est son premier scénario qu'elle a coécrit avec Cyril Pedrosa, mais elle travaille dans le milieu de l'édition apparemment depuis pas mal de temps. Elle est de formation, elle a suivi des études en histoire de l'art, elle a eu a priori une maison d'édition ou une librairie, peut-être les deux. J'ai pas trouvé des tonnes de choses et puis j'ai pas creusé le sujet, mais
d'accord, donc ça explique pourquoi j'ai trouvé qu'au niveau scénario, l'ellipse entre le volume 1 et le volume 2 était considérable. Et pourquoi
ça m'a semblé fort
déséquilibré
hein.
sur le volume 2 dans la densité scénaristique ?
Bah, j'ai pas été choqué tant que ça. Moi, ce qui m'embête, enfin, c'est ce qui m'embête. La caractéristique principale, c'est comme tu l'as dit en introduction, c'est que le tome 1, il est beaucoup sur le mystère. Tu découvres l'univers, tu découvres les personnages, il y a des choses cachées. Et finalement, dans le 2, comme tu arrives sur le moment de la résolution, c'est beaucoup plus concret. Tu as plus ce côté conte, tu es beaucoup plus sur l'aspect bataille, tu l'as dit aussi. Et moi, j'ai pas ressenti tant que ça de problème scénaristique, c'est juste que c'est la suite de l'histoire logique.
Ouais, moi, ce qui m'a dérangé, c'est d'être sur un volume 1, de façon très pragmatique, hein, sur un volume 1 de 200, un peu plus de 200 pages, et sur un volume 2 du même acabit, il fait un tout petit peu
un
moins
peu
de 200
moins.
Pages.
C'est 228 et 180 de mémoire.
Voilà, c'est que j'ai mis, je pense, deux bonnes heures à lire le volume 1, tellement ça m'a emporté dans l'univers fantastique de cette histoire. Et le volume 2, il m'a fallu 50 minutes parce que c'est un page-turner, c'est pas du tout les mêmes lectures que j'ai vécues entre les deux tomes.
Non, je le conçois, mais tu y as passé quand même 50 minutes, ce qui est pas courant. Moi, j'y ai passé quand même
90 pages.
Oui, il y a des pages en italien, c'est pour ça.
on va y venir après. Non, il y a des pages muettes, mais il y en avait déjà dans l'album 1.
Bah, c'est bon,
ouais. Ouais, mais... Moi, ce que je lui reproche un peu, peut-être, c'est que cette bataille, ou en tout cas ce siège du château adverse, est très long. Mais ça a le mérite de montrer l'évolution du personnage et de montrer des personnages et de montrer comment tu peux dériver. À titre de comparaison, il y en a qui sont étonnés du final de Game of Thrones avec le revirement de l'héroïne principale. Mais en fait, c'est ça dans cette histoire-là. C'est comment le frère, comment Tilda, comment les autres personnages en arrivent à ce final.
Il reste 2 minutes, les gars.
Enfin,
donc allez vite.
Moi, j'ai beaucoup aimé. On n'a pas parlé du graphisme très rapidement. Il est très particulier parce qu'en fait, Pedrosa encre en noir et blanc et après, informatiquement, il l'inverse. C'est-à-dire que le blanc, il le met en noir et le noir devient blanc, mais il colore son blanc. Ce qui fait qu'on a des traits colorés de plein de couleurs différentes. J'ai trouvé ça moins prenant et moins ambiançant, ce tome 2. On est sur quelque chose de plus réaliste que le tome 1 qui donnait l'impression de gravure. Je sais pas pour toi, Thibaut.
Bah ouais, et puis dans le tome 1, on a beaucoup, beaucoup de décors différents. On va voyager avec l'héroïne.
Oui.
Donc on va être en forêt, on va être dans un monastère, on va être dans...
Là,
dans
on
vraiment
est plus
plein...
au même lieu.
Là,
ouais.
On est sur le même lieu, donc on retrouve ces images de châteaux, de forteresses assiégées.
Ça fait moins rêver.
On voyage moins. Heureusement qu'il y a des tractations stratégiques et diplomatiques pour mener la révolte dans la forêt, pour retrouver un peu de mystère et d'ambiance glaçante à certains moments.
Et okay. Puis finalement, c'est un ouvrage hyper politique.
Ok, merci messieurs.
Moi, je le conseille quand même. Hein.
Ouais, moi aussi, je le conseille, je le conseille. Déséquilibré, mais je le conseille.
Ouais, alors moi, je ne vous avais pas donné envie parce que si tu résous ton truc par une bataille, c'est que tu n'as rien à dire.
Bon. Et voilà. Ouais, mais t'as des trucs à dire,
non,
mais en italien.
Ouais, en italien, mais si on n'a pas le temps d'en parler. Voilà. L'émission se termine. Merci à vous, messieurs.
Merci à toi.
Merci, les gars.
Et on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien. En attendant, à tout à l'heure dans vos rêves.
Ah. Tant, 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 tant.